Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Marie-Claude Nichols va maintenant siéger comme députée indépendante de Vaudreuil. Elle refuse donc de réintégrer le caucus du Parti libéral. Le Parti libéral, enfin, qui l'a expulsé de ce caucus. Et on a vu toute la saga. Et ça vient s'ajouter à cette crise vraiment qui secoue le Parti libéral à un point tel. Et on le voit venant de députés, de présidents, de militants qui remettent de plus en plus en question le leadership de la chef Dominique Anglade. Madame Nichols est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
La première question, toute simple. Vous avez été élu au début octobre comme les autres membres de votre parti. Vous avez porté les couleurs du Parti libéral. Comment ça allait avec votre chef à ce moment-là?
C'était déjà difficile, je le cacherai pas, je vais vous dire la
vérité.
Pourquoi
c'était difficile? C'est pour ça que je veux savoir la vérité, moi.
Ben, quand je fais une analyse, tout ça, quand je regarde en arrière, c'est évidemment parce que j'ai pas appuyé Dominique dans la course à la chefferie. Parce que dans l'autre mandat où Dominique était ministre, ça allait bien, on a fait du ski ensemble, elle m'aidait dans mes différents dossiers, mais depuis qu'elle est chef, ou même depuis la course à la chefferie, je l'ai pas appuyé, puis j'ai l'impression que c'est tout ce que je subis là, c'est parce que je l'ai pas aidé.
Pourquoi vous l'avez pas appuyé?
Je l'ai pas appuyé. Elle le sait, Dominique, là, elle est venue 3 fois au bureau pour que je l'appuie dans la course à la chefferie. Je vivais personnellement une séparation assez acrimonieuse. J'avais 2 enfants à m'occuper. C'était impossible là, pour moi là, de m'impliquer dans une course à la chefferie. Puis les répercussions ont été difficiles, même jusqu'à maintenant. Avoir une date pour mon investiture, ça a été difficile. On a essayé de me remplacer. Là, je sais qu'on a essayé de trouver un autre candidat dans le comté de Vaudreuil. Puis même là, après les élections, c'est ardu, disons-le comme ça.
OK. Il y a eu ces échanges entre votre chef et vous, donc. Puis là, on discute de la vice-présidence, puis on discute des dossiers à occuper. Est-ce que c'est vraiment ça, le nerf de la guerre? On s'entend pas sur les postes que vous allez occuper?
Mais non, ça, c'est... De la façon que ça fonctionne, l'octroi des fonctions, là, c'est toujours des négociations avec le chef. Même en 2018, au début 2018, on avait un chef intérimaire. On a toujours négocié nos fonctions. Dominique nous a demandé de lui envoyer par courriel nos choix, ce qu'on a fait. Après ça, il nous rencontre pour parler sur les différents choix. Mon premier choix, c'était la 3e vice-présidence. Je pense que ça me revenait. Je le pense encore que ça me revient. À cause de mon ancienneté, à cause de mon expérience, je suis avocate, je suis capable de trancher sur le banc. J'ai été mairesse de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, préfète de la MRC Vaudreuil-Soulanges pour toute cette expérience-là. Puis je disais aussi les critères des officiers. Il y en a 4 qui sont des hommes, une femme. Le 514 est représenté, le 450 l'est pas. Fait que, tu sais, pour différents critères, okay. Moi, c'était mon premier choix.
Sinon?
Ben, sinon, j'avais d'autres choix, mais quand on m'a appelé le mardi à 18h30 le mardi, je savais que j'étais dans les dernières à être appelée. Fait que déjà là, je me disais, ouf, pas beaucoup de considération pour l'ancienneté. Fait qu'à 18h30, quand on m'a appelé, on m'a dit, c'est ton 4e choix ou rien. Ben, j'ai pris le rien, puis monsieur Arcan, là, j'ai pas claqué la porte. J'ai dit, je vais prendre le rien. J'ai pas claqué la porte, j'ai pas fait de menace. On s'est entendu sur le rien. Parfait, je vais être autour de la table. Je vais continuer à collaborer comme je l'ai fait dans les derniers 4 ans.
Entre vous et moi, je comprends, mais quand on a si peu de députés puis qu'il y a une députée qui a aucun dossier officiel, on se dit qu'il y a un problème dans une partie, là.
Mais c'est pas la première fois que ça arrive, là, monsieur Arcan.
Non, mais
Arcan,
avec 21 députés?
On était 27, là. C'est vrai que c'est la pire que le Parti libéral a jamais eu, là. Mais c'est des choses qui changent, ça aussi. Peut-être que dans 3 mois, ça serait autre chose, puis on me demanderait. Mais de toute façon, je participe aux commissions, là. Je suis de bonne foi, là. Je continue à participer aux commissions, à aller dépanner mes collègues. J'ai juste pas de dossier de porte-parole, c'est tout, là.
OK. Vous avez dit, parce que c'était comme l'opération de remettre la pâte à dents dans le tube, là, de la part de Mme Anglade, de dire, ben, je tends la main, ça dépasser, disons, certaines limites, puis il faudrait que Mme Nichols revienne. Vous avez dit, je ne reviens pas, je réintègre pas le caucus. Je perds confiance dans ma chef, dans le fond. C'est ça, si je résume, là, c'est une perte de... Vous y faites plus confiance à Dominique Anglade, là.
ça fait 7 jours, 8 jours aujourd'hui, j'ai toujours pas d'excuses. Lors de ma rencontre lundi matin, j'ai demandé à Dominique, est-ce qu'il va avoir des excuses? J'en ai toujours pas à ce moment-ci.
Est-ce que c'est une bataille d'égo entre vous puis elle?
Non, c'est pas une bataille d'égo. Moi, on m'a imposé mon statut d'indépendante. On m'a cavalièrement, sauvagement mis en dehors de ma famille politique, en dehors du caucus libéral. Puis ça a un double impact. Hein. On me met dehors, puis en plus, on essaie de salir ma réputation parce que c'est fou les fuites qu'il y a eu. L'information fausse qui a été coulée sur moi. Fait que on a essayé de salir ma réputation.
Donnez-moi un exemple de ce que vous me dites.
Ça a été rapporté que j'avais donné des contrats entre 50 et 70 000 $ à Annie Trudel, ce qui est complètement faux. J'ai donné deux contrats de recherche pour une valeur de 5 000 $ parce qu'on n'avait pas de recherchistes à Québec, puis j'avais des dossiers importants, puis j'avais 6 projets de loi, puis j'avais des projets de loi omnibus. Fait que c'est de la fausse information, dans le fond.
Mais ça vient du bureau de la chef, vous pensez?
Ah oui, ça vient du bureau de la chef. Là, ça vient du bureau de la chef.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourquoi vous êtes si sûr que ça?
Parce que, tout a été coulé là, du bureau de la chef. Écoutez, la rencontre de lundi matin, 10 h, on se textait pour la rencontre de lundi matin, 10 h, alors qu'on échangeait sur le lieu. J'avais deux journalistes qui me textaient, est-ce que tu peux me confirmer la rencontre de lundi matin, 10 h? C'est pas moi, là, je suis toute seule chez nous en train de fixer le lieu.
Donc, tant qu'elle est là, vous retournez pas au Parti libéral?
C'est ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai dit aux membres du caucus libéral. Puis le caucus libéral me tend la main. Je sais que c'est les membres du caucus libéral qui me tendent la main. Dominique me l'a dit. C'est les membres du caucus libéral qui m'offrent de prendre des dossiers de porte-parole.
Mais la réponse est non.
Je peux pas, j'ai zéro. La première question que vous allez me poser, que tout le monde va me poser, c'est vous réintégrer le parti, vous avez confiance en votre chef? La réponse, c'est non.
Mais c'est
à partir
que je
de
dis,
là, on va me
êtes...
kicker out.
OK, mais là, si on résume, vous êtes libéral.
Pur.
Pur. Vous voudriez être dans le Parti libéral comme député, mais vous dites non parce que c'est Dominique Anglade qui est la chef.
Parce que le leadership de Dominique... j'ai plus confiance au leadership de Dominique.
Et
Dominique ne représente
là,
pas les valeurs et les convictions des vrais libéraux.
OK. Et tant qu'elle sera là, vous ne retournerez pas au Parti libéral.
Je ne retournerai pas au Parti
elle
libéral.
Elle démissionne demain après-midi, retournez-vous au Parti libéral?
Je veux retourner au Parti libéral. J'espère que c'est un statut temporaire. Je veux retourner au Parti libéral. J'ai reçu un coup de 2-4 en plein front. On m'a sorti de ma famille politique. Mais j'ai profondément les valeurs libérales à cœur.
Donc, Éric Duhaime perd son temps à essayer de vous appeler parce qu'il cherche un député à l'Assemblée nationale.
Il perd son temps.
Puis vous irez pas au Parti québécois, puis à Québec solidaire, puis à la CAQ.
Je suis une vraie libérale, échaudée par la chef, par le leadership de Dominique. Et quand je vais faire une entrée, je vais revenir au Parti libéral, c'est certain. J'espère que c'est une question de temps. Je suis certaine que mes collègues le comprennent. Et vous savez, depuis jeudi dernier, là, j'ai reçu environ 1000 messages d'anciens libéraux, de gens qui sont bas de libéraux, qui me disent « tu tiens debout pour les bonnes raisons ». Mais les anciens libéraux qui me disent « moi, j'avais lancé la serviette, maintenant que quelqu'un se tient debout et qui veut ramener le Parti libéral à la bonne place, vous pouvez compter sur moi ». C'est 1000 messages, M. Arcand, j'arrive même pas à répondre à tout le monde.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci.
Marie-Claude Nicole, députée indépendante maintenant de Vaudreuil.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
On se souvient tous de l'opération Scorpion à Québec qui visait à démanteler un réseau de prostitution juvénile, donc arrêter, on appelle des proxénètes, puis aussi arrêter des clients. Roger Ferland était l'enquêteur au dossier qui a mené donc cette enquête, qui a permis ces arrestations. Il nous présente avec Maria Mourani un livre qui s'appelle l'opération Scorpion, donc les dessous de la plus grande enquête sur la prostitution juvénile au Québec. Roger Ferland, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, 2-3 questions. vous dites d'entrée de jeu dans le livre que même quand vous étiez policier à Québec, avant l'opération Scorpion, il y avait comme un parfum ambiant dans la ville où on savait tous et toutes qu'il y avait de la prostitution qui impliquait des mineurs.
On avait toujours entendu certaines histoires, tout à fait exactement, qui racontaient des événements, mais pour diverses raisons, ça n'aboutissait pas.
Il y a une mère qui témoigne dans votre livre, oui, là, que vous avez rencontrée, qui a dit « J'ai une liste de 10 policiers à qui j'ai parlé, oui, à qui j'ai raconté mon histoire, et il s'est jamais rien passé. Est-ce que ça va être pareil avec vous? »
Ben, c'est ça. C'est exactement ça qu'elle m'affirme. C'est ça que j'ai dit d'entrée de jeu aussi, à mon jour 1 de l'enquête. J'ai dit, un petit peu 2 secondes. J'ai dit, je peux-tu avoir quelques temps? Parce que si elle dit, si vous faites rien avec ça, je sors ça dans les médias demain matin. Alors, j'ai demandé, j'ai dit, je peux-tu voir la liste des noms à qui vous avez parlé? Et elle avait une liste de noms dans un cahier, dans son agenda personnel, où était écrit le nom de plusieurs enquêteurs, des agents, des patrouilleurs aussi avec qui elle avait parlé, mais toutes des gens qui avaient à qui elle avait déjà raconté la même histoire qu'elle allait me conter ce soir-là.
Alors, pourquoi avec ces policiers-là, ça a donné aucun résultat, que ça a traîné, qu'un autre est arrivé, puis que vous avez eu le mandat de faire l'enquête?
Bon, la première raison pourquoi ça n'a pas été fait, souvent les enquêteurs ou les patrouilleurs qui ont une information, leur rôle c'est de l'envoyer, d'écrire un rapport d'information, et ça va être traité par une autre unité. Ça va être traité par une autre équipe. Il est facile de ramener l'imputabilité toujours ailleurs, mais c'est un peu ce qui se passait. Et avant nous, même, je dirais, peut-être deux ans auparavant, toutes les informations avaient été centralisées et envoyées à l'extérieur de nos bureaux, soit à la Sûreté du Québec pour que ça se fasse en région. C'est eux qui devaient travailler ça. Alors, c'était toujours envoyé là, mais à un moment donné, tout ce dossier-là est revenu dans la cour de la police de Québec en disant, bon, ben, ça se déroule à Québec, alors ils ont ramené ça. On venait de vivre les fusions, nous, à ce moment-là, municipales, à Québec. Les services de police étaient tous regroupés. Et c'est là qu'à la suite d'événements qui est arrivé dans la région de Montréal ici, une fusillade au Red Red Light, que les directeurs de services de police se jasaient et ont dit, bon, ben c'est une problématique, des gangs, il y en a un peu partout, vous en avez aussi à Québec. Les patrons de Québec avaient répondu en disant, on n'en a pas vraiment à Québec, nous. Et on dit, oui, regardez le rapport de filature ici. Des gens partent de Laval, de Montréal, descendent à Québec, et il y en a même qui seraient possiblement domiciliés à Québec. Alors de là, en revenant de cette réunion-là, c'est là que les patrons m'ont rencontré, ils ont dit, Roger, on aimerait ça que tu documentes avec la même rigueur que ça peut se faire dans les enquêtes crime organisé motard. J'ai arrivé des escouades motards. On va t'assigner quelqu'un qui travaille avec toi, puis on veut que tu documentes à Québec. On a-tu des gangs de rue? On a-tu des jeunes qui sont actifs là-dedans? Et semblerait qu'ils font des crimes.
C'est une enquête très rapide, efficace. Vous êtes allé chercher des mandats. Il y a eu de la filature. Puis en décembre de cette année-là, vous avez, oui, procédé aux arrestations. Si vous aviez à résumer en quelques mots, ce réseau-là, là, on pourrait le définir comment? On comprend le Wolfpack, certains gens d'affaires, là, mais c'était quoi le réseau?
En fait, le réseau, ben, au départ, c'est on réussit à convaincre des jeunes filles, peu importe quelles. Là, nous, on fait une démonstration sur une image ponctuelle d'une trentaine de journées. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a des clients qui utilisent depuis des années des jeunes filles, mais que là, ils ont plus besoin de les fabriquer pour avoir des jeunes filles à leur portée pour les utiliser, parce que il y a un phénomène nouveau qui est apparu dans la fin des années, dans le début des années 2000, fin 90, où est-ce que des gangs de rue les fabriquaient. Les gangs de rue avaient profité de leur popularité.
Recrutaient,
faisaient du dressage des filles et les amenaient, après avoir tombé en amour, plusieurs phénomènes, là, mais où ce qui était populaire, ils ont profité de ça. Ils ont fait. Certains, à ce moment-là, les ont amenés vers de la clientèle. D'autres les ont utilisés en région. Mais c'est à partir de ce noyau-là. Mais là, on s'est rendu compte que ça roule parce qu'il y a l'offre et la demande. S'il n'y a pas les clients, ça marchera jamais. Et souvent, nous, comme policiers, on s'occupe juste de la victime, qu'on sort de là, qu'on traite pas comme une victime, mais comme une prostituée. Et on s'occupe souvent juste du proxénète qu'on arrête pour un abuseur. Mais à partir du moment là, on a dit, si on les traite autrement, si les jeunes filles, on se rend compte, c'est pas vrai qu'en secondaire 3, ils lèvent la main, carrière et profession, je veux faire des clients dans la prostitution juvénile parce que c'est très bien payé, il n'y en a pas une qui lève la main. Alors, la problématique a débuté là, et c'est là qu'on s'est mis à s'occuper de ça différemment.
Je me souviens, et ça m'a rafraîchi la mémoire en lisant votre bouquin, on a donc des gangs de rue, on a des commerçants locaux, puis dans la clientèle, on a un pharmacien, il y a l'animateur de radio Robert Gillet. Ça, c'est votre déception, parce qu'il y a eu 3 accusations. Finalement, il était reconnu coupable d'un chef d'accusation. Et vous dites dans le livre que la jeune fille qui a témoigné, Rachel, là, si mon souvenir est bon, elle s'est fait bardasser pas mal par...
Parce que nous, moi, c'était pas une enquête sur Robert Gillet, mais les procédures de cour, on nous a toutes... ils ont présenté un angle différent pour la cour quand ça s'est présenté. Monsieur Gillet, pour moi, est un client qui est apparu dans l'enquête tout bonnement parce que un soir, on est sur la filature et il apparaît avec son ami. Et son ami profite d'une jeune fille ce soir-là. Et lui, selon les dires de la jeune fille, en aurait profité dans les journées suivantes. Dans les heures qui ont suivi. Ça, c'était sa version des faits. Nous, on a essayé de corroborer le maximum d'histoire là-dedans. Mais à la cour, quand il était de la cour, Monsieur Gillet était un des clients parmi tant. L'objectif était de présenter la preuve de la façon que pyramidale, de façon qu'elle s'était présentée à nous. Et que certains clients étaient clients bien avant notre enquête.
Faut que je vous parle de deux, trois éléments bien importants. Il y a eu tellement de rumeurs pendant cette opération-là, mais à la fête après, là.
Oui.
Sur des artistes. Vous parlez dans le livre d'un agent, de deux artistes.
Oui.
Est-ce qu'ils ont été vraiment suspects?
Ah, plus que suspects, on les a rencontrés.
Aviez-vous de la preuve sur eux? Pourquoi ils n'ont jamais été accusés?
On avait de la preuve, mais la preuve techniquement judiciaire n'était pas complétée. Je m'explique. On a de la preuve. C'est un enseignant d'une école à Québec qui recrute la jeune fille alors qu'elle a 13 ans la première fois. Et par la suite, à l'âge de 15 ans, c'est là qu'il va lui offrir certaines personnes. Mais cette personne-là, c'est lui qui paye pour. Et il va dire à la jeune fille, ne dis pas ton âge. Alors quand il s'adresse avec ces clients-là, ces 10 clients-là, il ne précise pas. Elle ne précise pas son âge. Alors nous, pour faire la preuve à la cour, on doit faire la démonstration qu'il connaît l'âge de la fille, qu'il l'a rémunérée et que qu'il a cette connaissance-là. Si je suis pas capable de faire cette preuve-là, ça ne tient pas la route. Alors, comme c'est lui qui a payé pour les actes sexuels et que c'est quelqu'un d'autre qui reçoit le geste, la complexité était grande à ce moment-là. Si on avait...
Juste une question. Quand vous les avez rencontrés, est-ce que vous leur avez dit, là, vous saviez que c'était des mineurs, puis ils ont prétendu qu'ils ne savaient pas, je pense?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben oui, évidemment.
Une classique.
Évidemment. Une classique. Non, c'est tellement, tu parles avec ces gens-là, puis tu vois très bien que ça ne fit pas avec la réalité que tu en as avant de toi. Ces liens, elles, peu importe elles-mêmes, si nous disaient, ben, j'ai peut-être déjà rencontré. Non. On avait son lien téléphonique, on avait le registre téléphonique de la jeune fille, on avait ses numéros de téléphone à lui, même s'il changeait de numéro de téléphone ou autrement, c'était le cas. Puis, c'est un fait que lui, on savait, c'était le gérant d'artiste de ces personnes-là. Alors, c'est lui qui était en lien avec eux déjà, là. Mais ça, c'est la partie pour nous. Il y en a eu d'autres avant. On entendait d'autres noms avant. Mais on n'était pas, comme je vous dis, à la chasse aux sorcières.
Sans être à la chasse aux sorcières, il reste toujours une impression qu'un politicien, un élu, un ministre, un ministre du Parti québécois, on ne sait pas trop qui, tous ces noms-là circulaient.
Oui.
Le fait qu'on ait parlé d'une deuxième vague d'arrestation qui n'est pas venue, on a l'impression qu'on a dit, OK, là, les dirigeants, ceux qui ont le pouvoir, viennent de stopper l'enquête à ce niveau-là, puis il n'y en aura pas d'autres.
C'est l'impression que ça a laissé...
Est-ce que vous avez eu cette impression-là?
À mon niveau, non. Parce que directement, moi, on m'a pas mis de pression directe. On m'a juste dit, Roger, on se tait, on sort-nous la preuve qu'il y a là avec l'équipe, on m'a ajouté du personnel, parce que de 30 victimes qu'on avait au 17 décembre, 31 nouvelles victimes de type, avec une déclaration de type KGB, là. C'est pas une déclaration, la jeune fille peut même plus revenir sur sa position après, là. On fait ça parce qu'on veut être sûr des faits. Mais plein d'autres gens, je ne parle même pas des entrevues additionnelles qu'on a faites avec plein d'autres gens, mais de là, c'est ajouté une multitude d'autres informations, et j'ai dit, OK, mais parfait. Assez que j'ai dit à mes patrons, deux secondes, on recommence là. Là, il y a un réseau qui s'enligne avec sur Internet. Il y a un réseau qui s'enligne ici avec une autre branche. Il y a un réseau de petits gars ici à côté. Il y a un réseau de... Alors, plein d'autres branches que j'ai dit, même à mes patrons, on arrête là deux secondes. Trouvez d'autres petits Roger ou trouvez d'autres enquêteurs ou trouvez d'autres équipes capables de faire ça. Mais là, avec ce qu'on a là avant nous, là, on va juste traiter ce qu'on a puis se rendre à la cour puis amener ça à terme. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu une certaine déception chez la population à penser qu'on avait été étouffé. J'ignore la pression politique que mes patrons ont eue. Possiblement qu'ils en ont eu. Je suis pas naïf à temps plein.
Ben, c'est-à-dire que c'est pas de la censure, mais quand je te donne pas les moyens d'atteindre un objectif.
Mmh. C'est ça. Mais à nulle part, tout ce que je demandais, ils me le donnaient. Mais moi, j'étais conscient qu'à un moment donné, quand ma cour est pleine, M. Arcand, je ne peux pas en faire d'autres, là. Puis c'est déjà juste le temps. Un kilo de cocaïne, ça bouge plus après. Là. Tu mets ça dans la voûte, en théorie, il devrait peser la même chose. Là, on a une victime que j'interroge une journée et que à qui je reparle dans 2 mois, 3 mois. Elle évolue, sa vie change. Elle voit ce qui se passe médicalement, elle voit la pression, elle entend parler de ses amis. C'est une marchandise extrêmement instable, mais nécessaire, puis c'est un humain qui est en avant de nous. Là.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Roger Ferland, l'opération Scorpion, les dessous de la prostitution juvénile à Québec aux éditions de l'Homme, c'est bien bon.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Il y aura point de presse de la santé publique cet après-midi parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées aux experts concernant la période de l'automne, de l'hiver, qui s'amorce, disons, même si on a actuellement des températures assez clémentes. Est-ce qu'il y a plus de cas de COVID? Est-ce que les variants, les sous-variants même, arrivent à déjouer le système de défense? On va regarder tout ça ce matin avec le Dr Carl Weiss. Dr Weiss, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Arcand.
Bon, alors, il y aura point de presse de la santé publique. Si vous aviez à nous faire un portrait COVID ce matin de ce qui se passe au Québec, qu'est-ce que vous pourriez nous dire?
Ben, la COVID est bien sûr là. Elle est bien implantée dans notre environnement. Elle ne partira pas. Par contre, on est aujourd'hui quand même, si on regarde le tableau global, dans une société très ouverte. Et en dépit de ça, les hôpitaux ne sont pas débordés avec la COVID. Donc, on parle beaucoup de débordement dans les hôpitaux, mais ce n'est pas la COVID qui est la cause principale de ça, loin de là. On sait aussi que la société ouverte a ramené d'autres virus. On sait par exemple que le virus respiratoire syncytial, qu'on appelle le RSV, a fait un retour en force, surtout dans la population pédiatrique. Beaucoup d'enfants n'ont pas été exposés à ce virus-là durant leurs premières années de vie à cause de la pandémie, puisque donc on a eu toutes sortes de restrictions en termes de garderie, etc. Donc là, il y a comme une espèce entre guillemets de rattrapage, et donc le RSV est présent. Il y a d'autres virus qui sont présents. En ce qui concerne la COVID, je vous dirais, on a à peu près ce qu'on avait dans le passé. C'est-à-dire que vous voyez que le nombre d'hospitalisations n'augmente pas de façon dramatique. L'immense majorité des gens hospitalisés avec la COVID n'ont pas la COVID comme diagnostic principal. Et la maladie sévère due à la COVID est un phénomène qui est aujourd'hui quand même rare et qui n'est plus du tout ce qu'on voyait au début de la pandémie. Ce qu'on voit aujourd'hui avec la COVID ne change pas de ce qu'on voyait avec la COVID il y a 2 mois, 3 mois. Alors oui, on rentre dans la saison hivernale, on va avoir plus de virus respiratoires. Quelle va être la saison grippale cette année? C'est certainement une question qu'on peut se poser. On n'a pas la réponse. On verra comment les choses vont arriver. Et on parle aussi de l'arrivée de ces sous-variants. Et là, peut-être, il faudrait éclaircir un peu le tableau de ces variants et de ces sous-variants, ce que ça signifie.
Allez-y.
La première chose qu'on sait, c'est que le variant Omicron est au Québec depuis le mois de décembre 2021. Et depuis décembre 2021, tous les variants qu'on a eus sont de la même famille qu'Omicron. C'est-à-dire, on n'a pas d'alpha, on n'a pas de delta comme on a eu dans le passé. Donc, vous vous rappelez, on a eu BA1, BA2, etc. On est rendu à BA4 et BA5. Et là, on parle de nouveaux variants qu'on appelle BQ, BQ1.1, XBB, même dans certains pays comme le Singapour, l'Inde, le Bangladesh. Mais tout ça, ce sont les derniers variants. Ce sont même pas des variants, ce sont des sous-variants du BA5. Donc, on est vraiment, je vous dirais, dans une évolution du virus qui tend à se raffiner de plus en plus pour, si vous voulez, persister dans la population. Et comme un virus, il faut essayer de se mettre à sa place. Son rôle, c'est de se propager. Mais en se propageant, il n'a plus du tout le même impact qu'on avait au début de la pandémie. Alors, on parle beaucoup de ce qu'on appelle l'échappement immunitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que nos anticorps qu'on a eus dus au vaccin ou à une infection au préalable nous protègent encore? Et la réponse, elle va être de 2 ordres. La réponse, elle est oui, ces anticorps et ces vaccins nous protègent contre l'infection sévère. Et notre immunité cellulaire, qu'on appelle, on a une certaine immunité mémoire, nous protège contre l'infection sévère. Donc, pour l'immense majorité des Québécois, l'infection sévère, c'est probablement pas au menu du jour si vous avez été vacciné, et si vous avez été vacciné et vous avez fait la COVID en plus. Maintenant, la vaccination ne nous protège pas forcément contre l'infection. Et l'infection, ça veut dire attraper le virus, être forcément peu symptomatique ou avoir un rhume. Et ça, ça va vous protéger, mais de façon temporaire et partielle. Alors oui, on peut avoir des réinfections, on peut avoir des infections partielles, mais je pense que la bonne nouvelle quand même qui est à retenir, et c'est je vous dirais, le grand succès de la campagne de vaccination, c'est que l'infection sévère, ça donne une excellente protection. Et la meilleure chose pour prouver ça, il y a une grosse étude qui est sortie et qui montre que dans les pays où on a beaucoup vacciné, l'espérance de vie qui avait diminué en 2020-2021 revient à une normale autour de 2021-2022. Donc, on voit que la vaccination a ramené la société, si vous voulez, à son niveau presque pré-pandémique en termes d'espérance de vie. Maintenant, on doit vivre et composer avec un virus dans notre environnement, mais qui n'a plus la même facette que ce qu'il avait dans le passé.
Parlons des enfants. J'ai eu beaucoup de questions de parents et pas toujours reliées à la COVID, mais vous parliez tantôt de virus respiratoires qui, font plus de dommages aux enfants. Est-ce que dans les écoles du Québec, il y a des parents qui posent cette question-là, là, l'enfant devrait porter un masque? Première question. Deuxième question, s'il a des symptômes, pas toujours COVID, mais problèmes respiratoires, est-ce qu'on devrait le retirer automatiquement de la classe? Puis si oui, combien de temps? C'est le genre d'inquiétude qu'ont les parents.
Ouais. Ben, écoutez, on revient à une vie un peu pré-COVID. C'est-à-dire que des infections respiratoires chez les enfants, c'est commun. C'est pas mauvais pour les enfants d'attraper un nombre important d'infections respiratoires. Vous savez, les infections qu'on attrape durant notre enfance, c'est ce qui nous protège éventuellement contre les infections sévères quand on devient vieux. Et la COVID nous a montré ça. Ce qu'on a appris de la COVID, c'est qu'il faut pas attraper la COVID pour la première fois quand on avait 80 ans et plus ou 70 ans et plus, à une époque où on n'avait pas de vaccin. Et on a vu que quand on attrape une infection pour la première fois et qu'on a un système immunitaire qui n'a plus la capacité de répondre parfaitement et au quart de tour, ben on en paye un prix. Donc attraper des infections virales, faire son immunité quand on est jeune, quand on est un enfant, surtout avec des infections qui sont quand même relativement bénignes, c'est pas mauvais. Alors, est-ce qu'on devrait faire porter des masques aux enfants? C'est peut-être pas une mauvaise idée, mais je pense que c'est aussi, est-ce que le coût-bénéfice à ce moment-là devient important? Il faudrait l'évaluer. Il y a des sociétés comme les pays asiatiques où on le fait beaucoup pour des raisons culturelles. C'est quelque chose qu'on fait moins en Occident. Ça pourrait être une solution, je vous dirais, par politesse, entre guillemets, mais l'impact serait quand même relativement, à mon sens, limité globalement pour l'ensemble des virus respiratoires dans le contexte de l'école. Ça dépend de où vous parlez. Si vous me dites à l'hôpital, oui, ça vaut la peine de porter un masque parce que vous avez des populations à risque. Mais à l'école, vous êtes en première année, vous avez des enfants qui sont pour, heureusement, l'immense majorité d'entre eux en bonne santé. D'attraper un virus respiratoire, c'est pas la fin du monde.
On doit rester à l'écart de l'école, par exemple, combien de temps, selon vous?
Ben, ça dépend un petit peu, je vous dirais. L'idée, c'est d'essayer d'éviter d'envoyer des enfants qui ont la COVID à l'école, dans leur phase aiguë. Alors, c'est sûr qu'il y a des enfants qui vont attraper la COVID. Ils seront pas très, très malades, mais ils vont peut-être faire un peu de fièvre, ils vont peut-être tousser, ils vont peut-être avoir des symptômes de rhume. Alors, est-ce qu'il faudrait les garder en dehors de l'école? Au moins, je vous dirais, le temps qu'ils fassent plus de fièvre, c'est important. Et en général, on dit quelques jours, on dit jusqu'à 5 jours à peu près. Ça ne diminue pas le risque infectieux à zéro, mais au moins, ça limite les conséquences. Maintenant, pour les infections respiratoires, on est tous allés à l'école avec des rhumes quand on était jeune. Et je vous dirais, jusqu'à un certain point, il faut pas non plus rentrer dans une société qui doit être complètement cadenassée. On essaie de la rendre complètement stérile parce que peut-être vous attraperez pas le rhume à l'école, mais vous allez l'attraper ailleurs. C'est-à-dire que votre enfant qui sera pas en contact avec un enfant qui a le rhume, ben il va aller faire des activités sportives où là quelqu'un d'autre aura un rhume et ainsi de suite. Alors on peut pas arrêter la propagation des simples rhumes dans la société.
Dernière question. Beaucoup de parents ont été vaccinés plusieurs doses, donc toutes les étapes. Ils hésitent énormément à faire vacciner leurs enfants en disant que c'est pas nécessaire. Qu'est-ce que vous dites à ces parents?
Ben, écoutez, c'est une question, en effet, qu'il faut essayer de comprendre au point de vue sociologique. Alors, pour les enfants, c'est sûr que quand ils font la COVID, pour l'immense majorité d'entre eux, ils sont pas très malades. Donc, on peut pas dire aux parents qu'on vaccine les enfants pour qu'ils n'aillent pas aux soins intensifs. C'est pas la même chose que les personnes âgées. On sait par contre que chez les enfants, il y a des problèmes rares, mais parfois sévères, de syndrome inflammatoire systémique. Il y a aussi, on sait qu'il y a des données, puis là, les enfants, j'inclus peut-être les adolescents, on sait qu'il y a des données que la vaccination donne une certaine protection de plus en plus contre la COVID longue. On sait que c'est moins mon domaine, mais il y a aussi des données, il faudrait plus demander à quelqu'un qui a une spécialité pédiatrique, l'histoire de la COVID longue chez les enfants, mais il y a des données qui sortent également. Alors, je vous dirais, le bénéfice de la vaccination chez les enfants, il est à la limite plutôt pour prévenir un syndrome qui est quand même rare, mais qui est très sévère. Est-ce qu'il y a un impact d'être vacciné pour éviter la COVID longue? Parce que ça arrive, la COVID longue, même chez des gens qui ont fait une COVID, on parle de jeunes adultes en bonne santé. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a fait une COVID très sévère pour faire une COVID longue. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que ce qu'on a appris avec le temps, c'est qu'à long terme, l'immunité hybride, c'est-à-dire le fait d'avoir été vacciné et d'attraper la maladie, parce que le vaccin vous empêchera pas forcément de faire l'infection à long terme, et on le sait puisque beaucoup de Québécois ont été vaccinés et ont fait la COVID, mais cette immunité hybride, c'est probablement la meilleure immunité que vous pouvez avoir à long terme pour vous protéger contre la maladie sévère.
Merci beaucoup, Dr Weiss. Bonne journée.
Également.
Au revoir. Merci, Dr. Au revoir. Carl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital juif de Montréal.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Notre invité nous propose un livre ce matin, « La reine de rien ». C'est intéressant comme titre. Geneviève Peterson est avec nous. Bonjour.
Salut.
La Reine de Rien, on comprend que c'est la finale du livre, en partant, mais c'est un peu, comment dirais-je, l'histoire que vous racontez, c'est d'une cadence dans le livre assez spectaculaire. J'ai appelé ça plus tôt ce matin, c'est comme une mitraillette. Votre personnage principal n'arrête jamais, parle tout le temps, commande tout le temps, critique tout le temps. Il y a comme pas de pause.
Mais... C'est drôle que ce commentaire-là, je l'aime parce que souvent les gens qui lisaient La déesse des mouches à feu, puis ceux qui ont lu le livre La reine de rien jusqu'à maintenant me disent on n'est pas capable d'arrêter de le lire, on lit
d'une traite.
Oui, parce que c'est un flow ininterrompu, puis c'est un livre qui est relativement court parce qu'on est en plein cataclysme, on est dans une tornade verbale, une tornade mentale parce que c'est l'histoire d'une séparation. Mais une séparation qui chire là, sur un moyen temps, puis elle est prise là-dedans et on est avec elle, donc ça peut devenir... Je pense qu'on la vit, cette intensité-là, avec elle et que ça nous amène à toutes sortes d'endroits, toutes sortes de places. Les gens vivent des émotions, puis ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point les endroits où les gens vivent le plus de colère ou d'incompréhension sont différents d'une personne à l'autre.
Mais avant d'arriver à la séparation, il y a tout le chemin qui y mène, c'est-à-dire... Ouais. L'espèce d'ennui qui s'installe, les infidélités qui commencent de façon platonique, mais qui prennent une autre tournure. Il y a ce parcours-là aussi. C'est-à-dire, ce qui est un peu bizarre, c'est que voilà des gens qui ont l'air d'avoir une vie plate, mais c'est raconté avec une telle cadence que c'est spectaculaire.
Ben, en même temps, c'est vraiment le moment juste avant que ce couple-là se sépare. Donc, l'espèce de point de bascule, si on veut, puis... Elle, ça passe par des infidélités. Tu sais, ça commence un peu sur les médias sociaux. Elle se met à parler avec des gens. Puis ça, combien de fois on a entendu ça? Parce que c'est tellement facile. Là. T'es assis sur ton canapé, bien confortablement, le soir. T'écoutes ton émission. Puis à côté de toi, l'autre qui est sur son set. Tu le sais pas qu'est-ce qu'il fait, tu sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Donc c'est ce moment-là, puis en fiction, c'est pas souvent abordé, tu sais, on aborde souvent le avant, tu sais, dans les comédies romantiques, là, c'est bon, le climax, là, ils se rencontrent, puis là c'est merveilleux, ou le après, tu sais, la vie d'après, mais le pendant, c'est le moment où ça explose, c'est rare, puis ce glissement-là, il se fait rapidement parce qu'à un moment donné, elle prend la décision de partir, de quitter sa vie familiale qui oui a l'air. Tu sais, je pense que les gens vont reconnaître une vie familiale assez traditionnelle, bien normale, là, deux enfants, des jobs, des cours de natation. Mais c'est facile de se perdre là-dedans, dans ce rythme de vie-là où tu deviens un peu une petite PME. Tu sais, t'es là, tu vas travailler, tu reviens, tu fais le souper, tu fais les devoirs. Après, tu t'évages devant la télévision, puis tu t'es pas vraiment parlé, tu te couches, puis le lendemain, on recommence. Donc, c'est un peu ça qu'elle vit. Mais je ne sais pas si le fait de partir va être si bénéfique que ça pour elle non plus, hein, parce que j'ai l'impression que qu'elle fasse le choix de partir ou rester, elle va perdre quelque chose des deux côtés.
Votre personnage principal, puis c'était vrai dans le premier livre, là, aime beaucoup évaluer les autres, juger les autres.
Elle est méchante. Non, elle n'est pas fine, on peut le dire. C'est une bitch.
Ouais, ma conjointe dit la chose suivante. Elle dit, moi, je ne juge pas, je catégorise le monde.
Oui.
c'est un peu ça. Oui. Hein, les étiquettes, regarde, me semble qu'elle n'est pas bien belle pour lui, puis qu'est-ce qu'elle fait avec un gars de même. Mais elle est aussi très critique à son endroit. C'est-à-dire que, autant elle juge les autres, elle juge durement elle-même.
Ben, c'est un personnage qui exerce une certaine violence, tu sais, sur les autres, sur son entourage. Puis oui, elle est très dure envers les autres femmes aussi, beaucoup. Puis envers elle-même, à prime abord. Mais j'ai l'impression que c'est à cause de toute cette pression-là, parce qu'elle se fait violence à ce point-là, que ça rejaillit finalement dans toutes ses relations. Parce que c'est aussi une histoire qui raconte des relations toxiques, mais pas seulement une relation amoureuse qui devient toxique, mais sa relation avec les autres au travail, sa relation avec elle-même, sa relation avec le sport. Puis en même temps, ces petites pensées-là malsaines, là.
Je prends un exemple, OK?
Oui, OK.
On a eu le mouvement MeToo.
Ouais.
Et puis des dénonciations qui peuvent remonter loin dans le temps, puis ce qui en est un changement d'attitude en milieu de travail si on prend strictement de cet univers-là. Puis là, vous décrivez des patrons. Puis dans le fond, vous dites, par le biais du personnage, là, c'est pas vrai que l'envie de taponner une fille a disparu. C'est juste que les gars se contrôlent plus parce qu'ils n'ont pas le choix.
Ben là, je suis pas d'accord. C'est pas l'envie de taponner.
C'est quoi?
C'est de ramener les femmes à leur identité sexuelle. Tu sais, c'est parce que on fait un bout de chemin en société en ce moment, puis la barre est haute. Là, tu sais, on a comme 10 marches à monter. Là, puis on essaie de monter 4 à 4. C'est ça que j'ai l'impression qui est en train de se passer. Puis elle, ce qu'elle dit, c'est bon. Ben, elle dit les gens, ils ont eu le mémo. Là, il y a des choses qui se font plus, qui se disent plus. Et ça, dans tous les contextes, que ce soit au travail, en relation, mais les gens peut-être en pensent pas moins. Tu sais, puis ça, il faut y penser aussi au fait.
Qu'est-ce que je veux dire, il en pense pas moi.
Ben, ça veut dire que, par exemple, moi, je le vis souvent comme femme, dans l'espace public, de me faire sans arrêt ramener à ma sexualité quand on veut m'insulter, quand on veut m'invalider.
C'est un peu ça que je disais, là,
mais exactement, mais c'est pas une histoire de taponnage.
Non,
c'est une histoire
que
de
les pensées.
Oui, que les pensées, on est rendu là. Tu sais, il faudrait que la pensée dans la tête
disparaisse.
Ben, en même temps, je veux pas contrôler ce que les gens vont penser. Puis, tu sais, moi, j'inclus le personnage là-dedans. Là. Elle aussi, on en a des pensées dégueulasses. Moi aussi, j'en ai. Vous aussi, vous en avez sûrement. On les garde pour nous. Mais moi, j'aime ça me questionner sur, ben voyons, pourquoi quand je vois telle personne, je pense comme ça? Pourquoi je pense ça? Pourquoi? On a tous une part de laideur. Puis c'est comme si on se donne plus de chance d'être, puis de pas de le revendiquer, mais c'est comme si on avait plus le droit à l'erreur, comme si fallait être tout de suite rendu au-dessus de l'escalier, là. Tu sais, il y a pas de place pour apprendre. C'est un peu ça qu'elle vit, ce personnage-là.
C'est quoi l'espèce de pont entre le premier puis le deuxième de cette fille qui est issue d'un divorce affreux, donc oui, dégueulasse, là, et cette mère qui a deux enfants, qui a un chum qui s'en occupe, puis que la vie a l'air pas si mal, puis qui finalement là, se craint à travers toutes ces pages-là. Y a-t-il un pont entre les deux? J'imagine que oui.
Ben, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle devient, cette jeune fille-là, parce que bon, la fin de la déesse des mouches à feu, c'était une fin volontairement ouverte qui a été interprétée de toutes sortes de façons, mais beaucoup de personnes me disaient, mon Dieu, je me demande si elle devient adulte, parce qu'il y a du monde qui se disait, mon Dieu, c'est sûr qu'elle se ramasse dans le caniveau, quel genre d'adulte ça ferait?
Puis c'est clair que quand tu as vécu une adolescence comme ça, quand tu as vécu ce type de séparation-là, c'est intéressant de la retrouver dans le rôle où étaient ses parents, finalement. Parce que quand tu deviens parent à ton tour, tu as un pas de recul que tu n'avais pas quand tu avais 15-16 ans. Puis je le disais dans une autre entrevue, son obsession, ça vient de ne pas répéter ce qu'elle-même a vécu, mais en voulant pas le répéter, on dirait que c'est pire encore. Ça devient pire encore. Donc, c'est de voir cette femme-là, qu'est-ce qu'elle devient avec ses failles, avec ses biais, puis avec son bagage qui est pas tout à fait optimal.
Jusqu'à quel point on puise dans sa vie personnelle pour écrire ça?
Ben, on puise beaucoup dans sa vie personnelle quand on écrit tout court, qu'on écrive de la science-fiction, qu'on écrive n'importe quoi. T'sais, on passe toujours par notre personne, par le filtre de notre subjectivité. Après ça, ben c'est sûr que moi, quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, parce que Catherine, je l'ai dit, là, l'histoire de l'adolescente, c'était pas mal la mienne. Là, celle-là, j'ai fait plus attention parce que quand j'ai écrit La déesse des mouches à feu, j'étais une adulte, j'étais une mère de famille. Là, elle est proche de moi en âge. Puis moi, j'en ai vécu une séparation. Puis j'avais commencé à écrire ce livre-là dans ces eaux-là. Puis j'avais dit, je pense que je vais prendre un pas de recul puis le reprendre plus tard. Mais c'est sûr qu'on puisse, dans ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti.
Ouais, c'est intéressant ce que vous dites. Là. Vous dites, je suis en train de commencer à écrire, disons, puis vous dites...
Ben, c'est pas une bonne idée.
Non, je suis en train de le vivre. Donc, vous aviez commencé à l'écrire avant même d'être séparés?
Ah ben oui, moi j'ai toujours voulu écrire un livre sur... Moi, je suis obsédée par la séparation.
Parce que ça a mal viré.
Parce que je me suis pas remise de la séparation de mes parents. Je m'étendrai sur le grand divan de la psychanalyse un peu plus tard. Mais c'est ça, j'ai toujours voulu écrire un livre sur une séparation parce que je trouve que c'est un moment qui est intéressant à explorer en fiction parce qu'il y a du lait, parce qu'il y a du gris, parce que les gens font des choses qu'ils font pas normalement, parce qu'ils regrettent. Tu sais qu'on en a tous des couples qui se séparent autour de nous, puis tu regardes ça aller, puis tu fais, ben voyons donc. Ben voyons, qu'est-ce qu'ils font? Il y avait l'air de des personnes normal, tu sais. Et là, quand tout à coup, ça devient épouvantable, ils se détestent, ils s'envoient des textos, ils se battent pour l'argent, les enfants. Donc, j'avais envie d'écrire là-dessus, puis je suis dans un âge où il y a beaucoup de couples autour de moi qui éclatent, tu sais, la quarantaine, début quarantaine, fin trentaine. C'est statistiquement,
est-ce
ça
que de le
là.
Vivre, ça a changé votre perception?
Ben, c'est sûr que oui, parce que quand tu le vis, c'est sûr que tu peux aller puiser. T'sais, t'es moins gêné d'aller puiser dans les choses pas belles quand t'es passé par là, toi aussi. T'sais, tu comprends, t'as une vision puis t'as un recul après ça qui te permet d'écrire ça avec peut-être plus de sang dans le corps, disons ça comme ça, parce que des gens qui me disent « Oh mon Dieu, on lit des passages puis on dirait que c'est vrai. » Mais c'est pas vrai. C'est juste que ça passe par l'écriture puis parce que les gens m'ont raconté puis à un moment donné, c'est des expériences auxquelles on peut tous s'identifier. C'est pour ça que ça a l'air vrai.
Votre ex-conjoint, professeur à l'UQAM, a fait la manchette, s'est retrouvé donc accusé, il a perdu son emploi à l'UQAM, ouais. Accusé de harcèlement et tout ça. Je veux pas abuser, mais comment vous avez reçu ça, vous?
Ben,
le matin où c'est la première page, là.
Je suis allée chercher mes enfants. C'est comme ça que j'ai reçu ça, puis je me suis occupée de mes enfants, parce que c'était ma priorité.
Parce que c'est le père des enfants.
Ben oui, c'est le père des enfants, c'est le père de mes deux enfants. Donc, moi, j'ai coupé court à tout ce qu'il y avait autour. Autour de cette affaire-là, je suis pas allée lire, je suis pas écoutée. Je me suis recentrée sur ces deux enfants-là qui ont rien demandé. Fait que ça a été ça ma réaction, ça a été une réaction de protection de mère, tu sais, de dire je vous prends là, puis on vous coupe de ça là.
On ferme la parenthèse.
On ferme les portes.
Pour être sûr de pas être dérangé.
Ben mon rôle c'est de les protéger. C'est ce qu'une mère fait dans ces circonstances-là. Puis c'est ce que je continue de faire.
C'est difficile à faire?
Ben non, c'est pas difficile à faire. C'est la chose à faire, c'est la chose naturelle à faire. Ils sont petits, tu sais.
Ça a donné lieu, La déesse des mouches à feu, à un film extraordinaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a une suite au cinéma pour celui-là aussi?
Je ne sais pas si la suite est au cinéma ou si elle est à la télévision. Moi, j'avais beaucoup aimé une série qui a été diffusée sur HBO qui s'appelle The Affair, où on voyait une histoire d'adultère, mais dans différentes perspectives. Parce que c'est beaucoup ça, ce livre-là aussi. C'est une histoire de perspective où on est tenté de juger, mais on se rend compte justement qu'il n'y a rien d'absolu, là. Puis c'est ça, cette série-là, c'est qu'on vit cette situation-là d'aventure extra-conjugale dans les yeux de la maîtresse, dans les yeux de la femme trompée, dans les yeux de l'homme qui trompe. Puis là, peu importe où tu te trouves dans l'histoire, tu as une vision différente, donc tu juges tout le monde les uns après les autres, puis ça te fait voir d'autres perspectives. Donc, ça serait peut-être intéressant de le pousser en télé, mais ça, là, on jase, hein?
On jase, mais en même temps, j'imagine qu'on y pense.
Ben moi, ça va avoir l'air drôle à dire, hein, mais moi je pense pas à ça quand j'écris des livres. Moi, j'écris le livre que j'ai envie de lire. Après ça, que le livre ait une vie autre, comme okay. par exemple le livre, le film d'Anaïs, c'est comme une cerise sur le sonnet, puis ça devient son affaire, elle aussi. Là.
Bon, là, votre personnage, fin trentaine, début quarantaine, c'est quoi le troisième? On va attendre jusqu'à quand?
On la retrouve ménopausée, mère d'ado.
Bon, ça y est. J'avais pas prévu ça. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci à vous.
Geneviève Peterson, La Reine de Rien. Et c'est disponible maintenant, puis ça se lit très vite. C'est bien bon.
Vous écoutez Balado du dimanche, une présentation de C23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à L'Essentiel de Paul Arcand sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode tous les jours en semaine, vers midi. Après la pause, ça tient la route, avec Benoît Charrette.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.